de toi pour t'adorer, pour te louer, en esprit, en vérité. Car en s'approchant de toi, c'est alors que l'homme peut accomplir sa raison d'être ici-bas, la raison pour laquelle non seulement tu l'as créé à ton image et à ta ressemblance, mais aussi la raison pour laquelle tu l'as sauvé de la perdition éternelle. Mais il y a aussi un temps où cet homme, en s'approchant de toi, est appelé à se taire et à te tendre une oreille attentive afin de recevoir de toi tes instructions. Seigneur, nous prions pour qu'il en soit ainsi, que tu nous aides à être attentifs, à nous focaliser sur toi, Seigneur, à faire taire toute autre voix, afin que notre cœur ne soit disposé qu'à entendre ta voix. Bénis chacun de nous par ta parole, bénis ton serviteur, assiste-le, soutiens-le par ton esprit, et que cette parole soit un véritable feu qui va, Seigneur, embraser non seulement notre âme et notre esprit, mais aussi notre corps. Car tu es le Dieu qui nous a créés, Seigneur, avec un corps, une âme, un esprit. Et lorsque tu agis vis-à-vis de l'homme, eh bien tu le visites dans sa globalité, dans sa totalité, dans tout son être. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Amen. Et gloire à Dieu. Nous sommes donc, comme je l'ai souligné en introduction à ces cultes, nous sommes le dimanche 9 juin, dimanche de Pentecôte. Donc notre célébration dominicale coïncide avec cette fête, qui est une des grandes fêtes dans la culture non seulement juive, mais aussi judéo-chrétienne. Nous avons trois grandes fêtes, qui marque l'année civile. Nous commençons par la Pâque, et puis la Pentecôte, et nous terminons par Noël. Il y a Sana qui me regarde bizarrement, oui. Noël, c'est à la fin de l'année, non? Et alors? Et gloire au Seigneur. Nous commençons par la Pâque, et le 50e jour, nous célébrons la fête de la Pentecôte, et enfin, nous terminons l'année civile par Noël. Donc, nous sommes un jour extraordinaire. Un jour où, en tant que l'Église du Christ, nous devons nous tourner vers la chambre haute, où il y a eu cette première effusion qui a changé l'histoire et le destin de l'humanité. Depuis cette première effusion, au jour de la Pentecôte, là, quelque part à Jérusalem, dans cette chambre haute qui est restée célèbre, qui est plus qu'un lieu, qui est une expérience par laquelle l'Église du Christ doit absolument passer. Depuis ce jour-là, mes amis, tout a changé sur cette terre. L'homme, quel qu'il soit, peut expérimenter les grâces du Créateur. C'est pourquoi en ce jour de Pentecôte, et à partir d'aujourd'hui, nous allons essayer de regarder autour et alentour de cette expérience ô combien majeure dans notre marche avec le Seigneur, à savoir l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, le baptême dans le feu. Gloire à Dieu. Notre thème donc de ce dimanche matin est « L'Église de Jésus et le baptême dans le Saint-Esprit ». Par ce message, par ce thème, je voudrais que chacun de nous comprenne que le baptême dans le Saint-Esprit est d'une importance capitale, est d'une nécessité, d'une grande pertinence. L'expérience de la Pentecôte, mes amis, fait partie de notre ADN. Il est impossible de se réclamer véritablement du Christ et de ne pas, après la conversion, passer par l'expérience de la chambre haute, l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, l'Église de Jésus et le baptême est dans le Saint-Esprit. Et comme vous le savez, en pareille circonstance, il y a des textes qui s'imposent à nous. Nous n'avons pas besoin de nous torturer l'esprit. Nous n'avons pas besoin de jeûner, de prier, afin que le Seigneur nous donne les textes le plus parlant, qui puisse constituer la base de notre réflexion, de notre message, de notre sermon. Il y a des textes qui s'imposent à nous. C'est le cas du livre des Actes, le premier chapitre, le deuxième chapitre. Ce sont deux chapitres classiques qui nous montrent, mes amis, que Jésus n'est pas seulement le Dieu de Golgotha, celui qui a donné sa vie en rançon pour le salut de l'humanité, il est aussi le Dieu qui se manifeste par le feu. Oh, alléluia. Et dans les deux cas, eh bien, l'Église n'a pas de choix, si ce n'est de passer par ces expériences. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans Actes au chapitre 1er. Actes au chapitre 1er. Nous allons commencer notre lecture au premier verset pour mieux comprendre le contexte. Et puis ensuite, nous irons au chapitre 2, les quatre premiers versets. Commençons par le chapitre 1er. Nous allons commencer notre lecture au verset 1er jusqu'au verset 5. Et puis nous lirons le verset 8. Et puis ensuite, nous continuerons notre lecture au chapitre 2. Chapitre 1er, verset 1er. Théophile, je parlais dans mon premier livre, donc l'évangile de Luc, puisque c'est Luc qui est donc l'auteur du livre des Actes des Apôtres, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert, et leur apparut pendant 40 jours, en parlant de ce qui concerne le royaume ou le règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, « Vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » Verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Chapitre 2, les quatre premiers versets. « Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu ou d'un commun accord. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Gloire au Seigneur. Après sa mort à la croix, après sa résurrection, le Seigneur est resté sur cette terre pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, il est apparu à ses disciples, non seulement à ceux qui lui étaient très très proches, aux apôtres. L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, signale qu'il était apparu à plus de 500 frères à la fois. Pendant 40 jours, le Seigneur a donné toutes sortes d'épreuves de son existence, preuves du vainqueur de la mort. Et après ces 40 jours, là sur le mont des Oliviers, le Seigneur est monté au ciel. Ses disciples étaient là, il les voit s'en aller, et puis à un moment, une nuée, un nuage le soustrait à leurs yeux, et puis c'est fini. Mais avant de partir, avant de retourner au Père et d'occuper la place qu'il a toujours occupée de toute éternité, car avant que le monde fût, lui est, avant donc de connaître cette ascension glorieuse, de s'asseoir là à la droite de la majesté divine, il a laissé des instructions à ses disciples. Voyez-vous ? Il leur a demandé d'attendre jusqu'à ce que la promesse du Père soit accomplie. C'était une promesse relative à une expérience particulière, une expérience qui n'avait rien à voir avec la conversion, qui n'avait rien à voir avec la repentance, car ceux auxquels il s'adresse, ceux à qui il demande d'attendre et de rechercher dans un esprit d'attente dynamique, dans un esprit de foi, de rechercher l'accomplissement de la promesse, étaient déjà des gens convertis, des gens qui l'avaient suivi, des gens qui avaient cru en lui. Je me permets de souligner, parce qu'on rencontre encore aujourd'hui, dans certains milieux évangéliques, eh bien, cet enseignement selon lequel le baptême dans le Saint-Esprit égale la conversion. Pas du tout. Plus de 2000 ans après, on retrouve encore cette confusion. Eh bien, ce n'est pas étonnant, car le diable cherche toujours à rendre l'Église impotente, cherche toujours, mes amis, à empêcher l'Église d'accomplir la mission à laquelle le Seigneur l'a appelée, à savoir gagner des âmes à lui. Et pour gagner les âmes, pour être cette Église qui rayonne et qui brûle, pour être cette Église qui détruit tout sur son passage, cette Église, mes amis, conquérante, qui fait reculer les ténèbres, cette Église qui arrache les perdus de la perdition, cette Église qui est un bras puissant que le Seigneur utilise pour se manifester à ce monde, pour empêcher à cette Église d'accomplir pleinement ce qui fait partie de son ADN, le diable va essayer de la distraire. Et une manière de la distraire, c'est de l'éloigner d'une bonne approche herméneutique de la parole, d'une bonne interprétation de la parole. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore, dans certains milieux protestants, des milieux qui sont, mes amis, déformés par la théologie libérale, vous trouvez encore de gens qui confondent la conversion avec le baptême dans le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous voulons attirer notre attention, mes amis, sur cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et ce dimanche de Pentecôte est donc une opportunité quasi merveilleuse, quasi extraordinaire de parler de la Pentecôte, de parler, mes amis, de cette nécessité de passer absolument par cette expérience, mes amis, de la Pentecôte, cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit et dans le feu. La Pentecôte. C'était une des principales fêtes annuelles célébrées par les Juifs, voyez-vous. Elle était célébrée au 50e jour, après Pâques. Pentecôte, c'est donc la transcription du mot grec, qui veut dire 50e. Et ici donc le 50e jour après la Pâque. Jésus est mort durant la semaine pascale, n'est-ce pas? Et au premier jour, il est ressuscité. Il est resté pendant 40 jours. Au bout de 40 jours, il est monté au ciel. Et il a demandé à ses disciples de ne pas s'éloigner. En hébreu, c'est la fête de Shavuot, ou la fête des semaines, ou la fête de la moisson. C'est la même fête. Fête des semaines, pourquoi? Eh bien, parce que elle était célébrée 7 semaines après la Pâque. Et quand vous prenez cette semaine, fois 7, ça fait combien de jours? 49, et le jour suivant, c'était la Pentecôte, le premier jour. Ou alors la fête de la moisson, parce que c'était une occasion pour le peuple d'Israël d'exprimer sa reconnaissance au Seigneur pour les différentes récoltes, voyez-vous, engrangées durant l'année. Ce fut une grande fête, et encore aujourd'hui, dans le judaïsme, on célèbre la Shavuot. Et encore aujourd'hui, parmi les chrétiens, nous célébrons cette fête de Pentecôte, qui, hélas, avec le temps, a été complètement écrémée de son sens, qui, avec le temps, est devenue, mes amis, une simple tradition. D'ailleurs, dans notre pays, et ça, je voudrais que tous ceux qui m'entendent et qui ont reçu un mandat de la part du peuple, tous ceux qui vont siéger au Parlement national, dans un pays à majorité chrétienne, c'est anormal que nous ne puissions pas fêter le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte. Voyez-vous. L'Europe qui se laïcise et s'athéise à la vitesse de l'enfer, fait encore cela. Mais chez nous, non. Ce jour-là, les gens se livrent à toutes sortes de choses terribles. Vous devriez imposer ça. Présenter une loi dans ce sens. Et Dieu vous bénira. Amen. Oh, alléluia. Ça ne sera pas une occasion de nous remplir de l'outoukou, tout ce que vous voulez. Ça sera une occasion de nous tenir devant Dieu. Ce lundi de Pentecôte, nous pourrions organiser des conventions, des moments où le peuple de Dieu se trouverait autour du Christ pour le louer, pour l'adorer. Car les fêtes des hommes passeront. Oui ou non? Oui, on peut en instaurer comme on veut. Si vous voulez décréter un jour pour célébrer Bondo, malheur à lui. Vous voyez? Mais ce que je veux dire, c'est qu'encore aujourd'hui, dans certains pays, non seulement le dimanche de Pentecôte est un grand jour, mais le lundi de Pentecôte est aussi un jour férié. Et nous sommes là non seulement pour le louer, l'adorer comme à l'accoutumée, comme à chaque célébration où nous nous retrouvons dans sa présence, où nous nous approchons de lui pour le louer, pour l'adorer, pour lui exprimer nos sentiments de reconnaissance, etc. Mais ce matin, cette célébration est un peu particulière. C'est que nous lui rendons grâce, nous lui exprimons notre reconnaissance par rapport à la descente, à la venue de son Saint-Esprit ici-bas. Sa venue a changé tout, mes amis. Ce monde livré aux puissances des ténèbres, ce monde manipulé par Satan et tous ses sbires et tous ses caïmans des ténèbres, ce monde, mes amis, depuis la descente du Saint-Esprit, ce monde n'est plus le même. Car tout homme, tout esclave du diable, tout celui qui est dans toutes sortes de liens, peut expérimenter la délivrance. Dès lors qu'il se tourne vers l'évangile du Christ, dès lors qu'il s'ouvre à la puissance du Seigneur, par et au travail du Saint-Esprit. Jésus avait promis la venue du Saint-Esprit, et au jour de la Pentecôte, lui qui est fidèle et véritable, lui qui se tient toujours derrière sa parole pour l'accomplir, eh bien au jour de la Pentecôte, il a accompli sa promesse, il a honoré cette parole qu'il avait donnée à ses disciples. Rappelez-vous ce qu'il avait dit dans Jean chapitre 14 verset 17, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, un autre paraclet, un autre défenseur, un autre avocat, un autre soutien, l'Esprit de vérité. » Alléluia. Gloire à Dieu. Et d'ajouter, « Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, il me glorifiera. » L'Église, mes amis, n'a pas vocation à marcher toute seule, à se laisser conduire par toutes sortes de traditions religieuses. L'Église est une entreprise spirituelle. Elle doit être conduite par le Saint-Esprit. Oh, alléluia. C'est dans la mesure où elle est conduite dans le Saint-Esprit qu'alors, mes amis, elle va accomplir sa fonction, sa vocation d'être le sel de la terre, d'être la lumière du monde. Alléluia. Mais au-delà de tout cela, mes amis, au-delà de ce que c'est une occasion pour nous d'exprimer notre reconnaissance au Seigneur pour avoir envoyé le Saint-Esprit, eh bien, notre célébration de ce dimanche matin est aussi et surtout une opportunité pour chacun de nous, mes amis, de réaliser le bien fondé, de réaliser l'importance, la nécessité et la pertinence du baptême dans le Saint-Esprit. Et gloire à Dieu. Réaliser l'importance de cette expérience de la vie chrétienne que la parole de Dieu appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Mes amis, comme je l'ai souligné, ce baptême n'a rien à voir avec la conversion. Pas du tout, voyez-vous. Il est vrai que dans les deux cas, que ce soit lors de la conversion à Christ, que ce soit dans le baptême du Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Celui qui nous convainc de péché, oui ou non, lorsque nous sommes confrontés à la parole de Dieu, celui qui nous fait prendre conscience du besoin de salut, celui qui nous fait tourner vers l'œuvre de la croix, c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous, mes amis, nous avons tout intérêt à ne pas l'attrister, non seulement dans notre vie, mais à ne pas l'attrister également dans notre Église, parmi nous, voyez-vous. Autrement, si le Saint-Esprit est constamment attristé, comment voulez-vous qu'il nous conduise dans toute la vérité? Alléluia. Comment voulez-vous qu'il manifeste, qu'il rende effective et de manière puissante la présence du Christ? Oui, le baptême dans le Saint-Esprit est une promesse que le Père a faite à tous les disciples. Ce n'est pas une expérience qui était destiné qu'à ce groupe de 120, qui aurait été considéré comme étant une élite spirituelle dans l'Église du Christ, pas du tout. Les 120 ont été sauvés par grâce, oui ou non? Les 120, mes amis, étaient des hommes et des femmes. Oui, il y avait des femmes. Vous qui êtes sexiste, phallocrate. Il y avait des femmes. Et parmi ces femmes, il y avait la mère du Seigneur. Voyez-vous? Voyez-vous? Ils ont été tous baptisés dans le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, croyez-moi, l'Église a commencé. Et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit a commencé à œuvrer sur cette terre. Nous l'avons lu, avant de faire son ascension vers le ciel, de monter au ciel et de retrouver la place qu'il a toujours occupée de toute éternité, le Seigneur a demandé à ses disciples, a demandé à ses apôtres, à ceux qui avaient marché avec lui pendant 3 ans, à ceux qui avaient été enseignés par lui, lui le docteur par excellence, comme le témoignage lui rend ses témoignages, le Nouveau Testament lui rend ses témoignages, jamais homme n'a parlé comme lui. Oh, alléluia. Ils ont été enseignés à la meilleure école biblique qui soit, dans la meilleure faculté de théologie qui soit, car aujourd'hui, on trouve des écoles bibliques, on trouve des facultés de théologie qui répandent des doctrines d'incrédulité. Les gens y vont avec un peu de feu, et quand ils en sortent, ils sont complètement glacés. Et on se retrouve avec un diplôme, et on se met à contester tout. On s'élance dans toutes sortes de controverses. Êtes-vous sûr en hébreu, ça dit ceci? Êtes-vous sûr en grec, d'après telle tradition? Et puis les gens finissent par trouver un certain plaisir, voyez-vous, à polémiquer tout le temps. Oui, Dieu ne nous appelle pas à argumenter. Il nous appelle à briller et à brûler de son feu. Nous essayons d'argumenter parce que nous n'avons plus cette puissance. Pierre à la Pentecôte, comment a-t-il réagi, mes amis, aux propos de juifs qui étaient là, qui avaient été attirés par ce bruit-là? S'est-il lancé dans un travail d'apologétique en disant, écoutez, pas du tout. Il leur a simplement dit, puisque les juifs qui étaient là se moquaient d'eux, en les entendant parler dans leur langue, voyez-vous, il dit, mais ils sont pleins de vin doux. Ils ont bu. Certainement, leur cœur est réchauffé par l'alcool. C'est ainsi qu'ils parlent, qu'ils se comportent de cette manière. Il leur a dit non. Nous ne sommes qu'à la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 heures du matin. Donc, on pourrait dire, les gens ne se sont pas réveillés et puis se sont mis à vider des carafes de vin. Pas du tout. Mais ce que vous voyez, ce que vous entendez, est ce qui avait été promis par le prophète Joël. Il prêche la parole en s'appuyant sur les saintes écritures. Voyez-vous, il appelle tous ces juifs qui étaient là à la repentance, à croire dans le nom de Jésus-Christ, pour enfin recevoir le don du Saint-Esprit. Et ce jour-là, sans aucune publicité, sur Internet, je sais que c'est anachronique tout cela, mais enfin, sans Internet, sans de grosses affiches, des gros posters à travers toute la ville de Jérusalem. Il y a un bruit qui les a attirés. Il y a un bruit qui a attiré le peuple. Mes amis, ce bruit n'a pas été créé par la musique des hommes. Ce bruit n'a pas été créé par la chair. Ce bruit n'a pas été créé par un homme charismatique. Non, ce bruit est venu du ciel. C'est ce bruit qui a attiré tous ces gens-là, mes amis. Aujourd'hui, pour attirer les gens, nous essayons de recourir à toutes sortes de choses, quitte à nous compromettre. On essaye de mentir, voyez-vous. On dépense beaucoup d'argent pour trop peu de résultats, voyez-vous. Ce jour-là, Jérusalem, eh bien, le bruit est venu lorsque le Saint-Esprit est descendu. Voyez-vous, j'ai partagé avec un de mes garçons. Pendant que j'étais de l'autre côté, je lui ai dit, quand tu prends le revolver, mon fils, c'était pour lui montrer la nécessité du Saint-Esprit. Je lui ai dit, quand tu prends un revolver, tu mets les balles à blanc, voyez-vous, et que tu appuies sur la gâchette, il va y avoir une détonation, n'est-ce pas? Tu prends le même revolver, tu mets une vraie balle, tu appuies sur la gâchette, il y aura une détonation. Ce sera la même détonation. C'est au résultat qu'on saura laquelle est-elle une vraie balle. Voyez-vous? Et aujourd'hui, on essaie de créer le bruit. Au loin, on peut se dire, oh là 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 là, quelle détonation spirituelle. Mais Dieu seul sait. Dieu seul sait que toutes ces balles, ce ne sont que des balles à blanc, incapables d'atteindre la cible. Et la cible, c'est le cœur de l'homme. Aujourd'hui, on organise des foires spirituelles. On essaye d'attirer les gens en essayant de les encenser à coups de publicité. On essaye de faire passer des images, quelquefois des images prises sur Internet, pour donner l'impression que voilà, quand on prêche, voilà ce qui arrive. Et comme les gens sont très crédules, mes amis, les voilà qui se laissent attirer comme des moutons des panurges. Et quand ils arrivent, à quoi assistent-ils? À un spectacle. Et au cœur de ce spectacle, un homme. Un homme qui s'agit. Voyez-vous, un homme qui parle anglais, comme si pour faire descendre la puissance d'en haut, il faut absolument parler l'anglais. Jesus. Et quelquefois, ils ne comprennent même pas ce qu'ils utilisent, hein, comme mot. Voilà, ils essaient d'impressionner. Ils mettent la musique très fort. Attention, c'est un bruit qui ne vient pas du ciel. On essaie de combler le manque en jouant sur le nombre de décibels, en essayant de surchauffer l'ambiance, l'atmosphère, en amenant tout le monde à danser, sauter, nous sautons, et après, les gens repartent avec leurs casseroles immorales, les gens repartent avec leur cœur rongé par l'incrédulité, les gens repartent avec leurs problèmes, et au bout d'un certain temps, ils sont fatigués, et puis ils se tournent vers le monde, et puis on se dit, ah, c'est pas possible. Tel frère ou telle autre sœur qui était très engagée aujourd'hui dans le monde, dans la plupart des cas, c'est de notre faute. Nous n'avons pas tout fait pour que le Seigneur allume son brasier dans l'Église. Car lorsqu'il y a le feu de Dieu, là l'atmosphère change. Quand il y a le feu de Dieu, là les vies sont transformées. Ils sont descendus du mont des Oliviers par obéissance à la parole du Seigneur. Celui qui leur avait dit, qui leur avait donné cette recommandation injonctive, vous, restez à Jérusalem. Il leur avait déjà donné cet ordre bien avant d'aller dans le monde entier de prêcher la bonne nouvelle. Vous rappelez? Dans les évangiles. Mais là, il précise, il dit, c'est bien. Il leur avait donné le programme, mais il leur dit, ne vous précipitez pas. Ils connaissaient, mes amis, ce qui les attendait. Ils savaient mieux que quiconque que ces gens avaient besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut. Il dit, attendez. Attendez ici à Jérusalem. Voyez-vous? Jusqu'à ce que le Père accomplisse sa promesse. Car dans peu de jours, il n'a pas donné le nombre exact de jours, n'est-ce pas? Il a simplement dit dans peu de jours. Voyez-vous? Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et il précise, Jean baptisé d'eau. Voyez-vous? Mais vous, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Quand ils entendent ça, par obéissance à leur maître, ils quittent le mont des Oliviers. Ils descendent, parce qu'entre le mont des Oliviers, pour ceux qui ont déjà été à Jérusalem, et Jérusalem, vous avez la vallée du Kédron ou de Cédron. Ils descendent, ils passent. Ils arrivent à Jérusalem, ils se retirent dans la chambre haute, avec une promesse dans leur cœur. Seigneur, tu nous as demandé de ne pas nous en aller, de ne pas quitter Jérusalem. Eh bien, nous sommes là. Nous sommes là pour attendre l'accomplissement de la promesse du Père. Ils ont commencé à prier, à persévérer dans la prière, là dans la chambre haute, à persévérer dans la supplication, là dans la chambre haute, jusqu'à ce que quelque chose se passe. Au dixième jour, Ils ont persévéré, n'est-ce pas? Nous, aussitôt que Dieu nous parle, eh bien, nous aimerions qu'il réponde à la prière le lendemain ou deux jours plus tard. Une fois que nous ne voyons plus ça une semaine après, nous commençons à murmurer. Et étaient sûrs que celui qui leur avait donné cette promesse, étant fidèle et véritable, allait finir par répondre, par accomplir cette parole. Alléluia. C'est ainsi qu'au dixième jour, le ciel s'est ouvert. Au dixième jour, le Père a accompli sa promesse. Il a ouvert le ciel, il a fait descendre le Saint-Esprit dans cette chambre haute. La Bible nous dit, tout d'un coup, il y eut un bruit. Oh, alléluia. Il y eut un bruit. Quand il descend, nous l'avons chanté, l'atmosphère change. Ils n'ont pas joué les tam-tams pour provoquer ce bruit. Ils n'avaient pas d'instrument de musique. Je l'ai dit parce que la musique nous distrait de plus en plus. On organise des grands concerts, qu'on appelle des concerts d'adoration. Écoutez-moi bien. Venez pour adorer le Seigneur. Et on met un prix, un droit d'entrée. Ce n'est pas biblique. Comment pouvez-vous faire payer aux gens le fait d'aller louer, adorer le Seigneur? C'est la cupidité, c'est l'esprit de lucre. Dites simplement, venez au concert chrétien. Et par rapport à ce concert, il y a un droit d'entrée. C'est tout. Vous m'envoyez, je reçois des pasteurs, par des lettres bien conçues, etc., avec toutes les fleurs de l'homilétique, tout ça. Et, veuillez, s'il vous plaît, permettre que nous affichions, nous avons un concert de louange, de célébration, de louange, d'adoration, avec un droit d'entrée. J'ai dit à la secrétaire, ouais. C'est sûr. S'il vous plaît, mettez-vous à la place du Seigneur. Vous pensez que Dieu... Vous êtes venu, vous avez payé? Vous pensez que quand il y a un concert, je ne sais avec quel chanteur, Jésus changerait? Et qu'il viendrait à l'entrée avec un panier. Nous aucun droit. Allez, vas-y. Non. Réfléchissez, mes amis. Ne soyez pas de ceux qui ne réagissent pas, qui ont complètement démissionné par rapport à la raison. Être chrétien ne veut pas dire se suicider sur le plan rationnel. S'il y a des gens qui devraient avoir le monopole de la réflexion, c'est bien les chrétiens. Mais souvent, nous avons la foi du charbonnier, fondée sur les émotions, sur les sentiments. Oui, j'ai senti, oh Dieu, ah merci. Mais vous pouvez sentir n'importe quoi. Vous pensez que les gens qui sont tombés dans le péché n'avaient pas senti? Tout dépend de ce que vous sentez. Il y a eu un vent impétueux, comme un vent. Il n'est pas dit, il y a eu un vent, attention. Hein. Il y a une comparaison. Hein. Il y a eu un bruit comme celui d'un vent violent, d'un vent impétueux. Il faut vivre dans certains littorales, hein, régions littorales, dans certains pays comme la côte ouest aux États-Unis, où à certaines périodes, il y a des ouragans, il y a des tornades et des cyclones, pour comprendre ce que l'auteur nous dit, le bruit d'un vent violent. Vous savez, ici, nous avons des petites tempêtes et tout ça, mais là, c'était plus que cela. Et ce bruit a rempli toute la maison. Et puis, tout d'un coup, quelque chose qui ressemblait à une boule de feu est apparu. Là, au-dessus de ces 120. Et puis ensuite, cette boule a commencé à se diviser en langues de feu. Et ces langues de feu sont allées se poser sur chacun d'eux. Oh, alléluia. Il y a eu le feu. Et après, il nous a dit, ils furent tous remplis du... À partir de ce moment-là, ils vont être revêtus de la puissance d'en haut. Quand ils vont se mettre, mes amis, à accomplir la mission du Maître, rien ne va les arrêter. Même pas la persécution. Même pas la mort. Beaucoup vont laisser leur vie. C'est ainsi qu'un des pères de l'Église a eu à dire, à juste titre, que le sang de martyr a été la semence de l'Église. Là où on en tuait 10, là où le sang de 10 chrétiens coulait, eh bien là, 100 personnes se levaient pour croire en Jésus-Christ. Rien ne pouvait les arrêter. car désormais il y a un feu qu'ils ne pouvaient pas contrôler qui brûlait en eux. Leurs os brûlaient, leur chair brûlait, leur âme brûlait, leur esprit brûlait. À partir de ce moment-là, mes amis, ils vont brûler du feu du Saint-Esprit. Ils vont brûler du feu d'en haut. Ils vont être revêtus de la puissance et devenir de véritables témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Ils vont conquérir, aller de conquête en conquête. Ils vont arracher des territoires qui jusque-là étaient dominés par les démons. Ils vont les arracher aux démons pour les consacrer au Seigneur. Mes amis, en lisant le livre des Actes, après le chapitre 2, nous pouvons nous rendre compte des résultats plus que glorieux que cette poignée d'individus a eu à engranger simplement en annonçant l'Évangile sous la puissance du Saint-Esprit. Oui, la nécessité du feu de la Pentecôte dans l'œuvre de Dieu. Oh, que nous comprenions cela! Le feu reste et demeure la caractéristique du Dieu de la Bible. Alléluia! C'est le feu qui les singularise. C'est le feu qui fait, entre autres, que le Dieu de la Bible, créateur des cieux et de la terre, soit un Dieu unique. Voyez-vous? Que ce soit dans l'Ancien Testament, et je reviendrai là-dessus avec plus de détails, que ce soit dans le Nouveau Testament, il est toujours question de feu. Oh, alléluia! Mes amis, quand nous parlons de Dieu, nous devrions être conscients que nous parlons aussi de feu. Oh, alléluia! Écoutez ce que le psalmiste déclare dans le psaume 97, ou 97, puisque nous sommes très suivis en France. Au verset 3, il est dit ceci, « Le feu marche devant lui. » Oh, alléluia! Le feu marche devant lui. Voyez-vous? Avant qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit, il y a eu d'abord des langues de feu. Et puis ensuite, le Saint-Esprit a agi. Tel un messager du roi. Vous savez qu'à l'époque, je ne sais pas si ça se faisait dans nos civilisations ici en Afrique, mais en Europe, lorsque le roi ou l'empereur devait se déplacer, il était toujours précédé par un héros. H-E-R-A-U-T. Hein, c'est différent de héros, hein. C'est-à-dire de quelqu'un qui proclamait. Nous vous annonçons ceci. Le roi va venir. Préparez-vous. Faites ceci, faites cela. Voyez-vous? Et ce n'est qu'après que le roi arrivait. Eh bien, pour le Seigneur, c'est la même chose. Le fait comme ce messager du roi qui annonce sa venue. Quand le feu brûle, c'est que quelque part, quelque chose va se passer. Quelque chose de divin. Voyez-vous? Le feu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'exprime encore avec beaucoup de force. Au chapitre 12, verset 29, que nous dit-il? Notre Dieu est un feu dévorant. Tout tourne autour de son feu. Le Nouveau Testament lui-même, aujourd'hui j'aimerais que nous restions avant de terminer dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament lui-même commence avec le feu. Eh oui. La première chose dite au sujet de Jésus par son premier témoin, à savoir Jean-Baptiste, eh bien, concerne le feu. Qu'est-ce que Jean-Baptiste nous dit dans Luc 3, verset 16? Lui, Jésus, vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Alléluia. La première chose, on annonce la couleur, c'est qu'il sera. Non seulement il vient pour sauver, non seulement il vient, mes amis, pour rendre enfin accessible le royaume de Dieu à quiconque croit en lui, pour rendre le pardon accessible à tout pécheur qui se repent, mais il est aussi venu pour baptiser. Oh, alléluia. Ce qui est formidable dans tout ça, c'est que nous voyons d'un côté Jean, fils de Zacharie, le baptiseur, qui présente Jésus, fils de Dieu, comme étant aussi le baptiseur. N'est-ce pas? L'un baptise dans l'élément physique, à savoir l'eau. Et l'autre, Jésus, Pour lui, il s'agit d'un autre élément spirituel. D'un élément spirituel. Il baptise du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Jean plongeait les gens dans les eaux froides du Jourdain. Jésus, lui, se tient dans un fleuve de feu. Et il plonge les gens dans ce fleuve de feu. Oh, alléluia. C'est ça la différence. Mes amis, l'œuvre notoire de Jean, évidemment Jean, fils de Zacharie, je dois préciser, puisqu'il y a Jean, l'apôtre, Jean, le baptiseur ou le baptiste, son œuvre notoire, son œuvre avérée était le baptême. Et il annonça l'œuvre notoire de Jésus comme étant aussi le baptême. Voyez-vous, Jésus, non seulement qui sauve, mais Jésus qui baptise. Cela veut dire, mes amis, que si baptisé dans le Saint-Esprit est l'œuvre de Jésus-Christ, cela signifie que tout ce qui a trait à lui, tout ce qui a trait à sa parole, tout ce qui a trait à son évangile, tout ce qui a trait à son œuvre, tout ce qui a trait à son Église, tout cela, mes amis, eh bien, devrait être caractérisé par le feu. Tout devrait brûler dans sa présence. Voyez-vous? Oui, tout devrait briller, car comment voulez-vous annoncer celui qui baptise d'Esprit Saint et de feu si vous-même vous n'êtes pas embrasé par son feu? Jean-Baptiste lui-même, c'est Jésus-Christ qui lui rend ses témoignages. Dans Jean, chapitre 5, verset 35, il dit ceci, à propos de Jean-Baptiste, qu'il était une lampe qui brûlait et qui brillait. Et littéralement, il était une lampe brûlante et brillante. Alléluia. Mes amis, l'Église doit brûler du feu de l'Esprit. Nos vies doivent brûler du feu du Saint-Esprit. L'ennemi, ça joue avec nous. Il arrive même à poser ses doigts immondes sur notre vie parce que notre vie est froide. Il y a un tout petit peu de chaleur qui ne l'incommode pas, mes amis, qui ne l'inconforte pas. Non, il peut poser ce doigt mortel sur nous et nous faire du mal. La solution, eh bien, c'est comme un four électrique. Voyez-vous, quand vous préparez, il y a la sauce qui tombe sur les plaques électriques, oui ou non? Et quand il y a toutes ces sauces qui sont là, les mouches sont attirées. Si vous vous mettez à les chasser, vous allez vous épuiser pour rien. La seule solution, prenez simplement la fiche, le câble, à les mettre dans la prise où il y a le courant électrique. Au bout de quelques temps, soyez là simplement comme observateur. Et vous allez voir, quand la plaque va commencer à chauffer, quelque chose va se passer. Les mouches vont partir. Mes amis, il n'y a pas d'autre solution. Si nous voulons éloigner l'ennemi de nos vies, brûlons du feu de Dieu. Oh, alléluia. Jusqu'à ce que le feu tombe sur nous. Je terminerai par là. Jusqu'à ce que le feu tombe sur nous, mes amis, et nous embrase toutes les activités de l'Église. Le chant, l'évangélisation, la prédication, ces homélies, eh bien, proclamées depuis la chair, tout cela, s'il n'y a pas le feu, eh bien, peuvent être des activités ennuyeuses et routinières. Oui ou non? Au bout d'un certain temps, on est fatigué. Si la chorale est simplement une chorale qui chante et qu'il n'y a pas le feu, au bout d'un certain temps, on dit, ah, l'alembico. Voilà. Voyez-vous? C'est ça, mes amis, quand il n'y a pas de feu. Voyez-vous? Quand il n'y a pas, non seulement ces activités deviennent ennuyeuses, insupportable. Mais tout cela est du travail de congélation. Eh oui, la congélation. Malheureusement, beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées aujourd'hui ressemblent, comme je l'ai souligné le vendredi, à des chambres froides. Vous savez ça? Et le propre d'une chambre froide, c'est d'accomplir un travail de congélation. Et aujourd'hui, il y a toutes sortes de pratiques dans les églises qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Toutes sortes d'enseignements qui sont proclamées, toutes sortes de doctrines d'incrédulité qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Tout cela, mes amis, ce sont des choses qui paralysent, qui atrophient la foi. Et pire encore, ce sont des choses qui la liquéfient. La foi devient liquide. C'est tout, il n'y a plus rien. Les gens viennent avec leurs problèmes, ils repartent, ils ne sentent rien. Alors, et comme les gens, la plupart des prédicateurs, ce sont des gens très intelligents, qu'on le veuille ou pas, hein, et ce sont des gens qui ont une certaine finesse d'esprit, ils comprennent tout de suite. Alors, il faut pallier tout ça, comment? Eh bien, en créant quelque chose, en essayant de frotter les gens avec la chair, par une musique et tout ça. C'est ainsi qu'on va chercher des chanteurs bien connus pour animer des cultes. Et comme les gens ici, c'est vrai que le chant est dans notre sang, né africain, la musique dans notre sang, qu'on chantait autrefois, hein. Eh bien, là où il y a la musique, nous venons. Mais si on dit, il n'y a que la parole de Dieu, ah! Mais ces choses, nous les connaissons. Ah oui, vous ne savez pas que moi j'étais au grand séminaire. Et là on trouve toutes sortes d'excuses. Mes amis, les gens viennent à l'église, ils entendent toutes sortes de sermons, mais ils ne changent pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'au cœur de l'église, au lieu d'avoir un autel sur lequel brûle et brille le feu de l'esprit, il y a de la glace. Des églises qui sont de véritables glaciers. Voyez-vous, les gens viennent et repartent. Ce qui est tout le contraire du travail du Seigneur. J'aime beaucoup ce récit que nous trouvons, et je terminerai par là, que nous trouvons dans Luc. À la fin de son livre, il nous parle de cet épisode, de cette histoire de deux disciples du Christ, Cléopas et son ami, qui sont connus comme étant les disciples d'Emmaüs. Ils quittent Jérusalem pour aller vers Emmaüs, c'était un petit village, à quelques encablures de Jérusalem. Et là, ils discutent, ils sont complètement brisés, déçus. Ils avaient cru en Jésus, ils l'avaient suivi. Pardonnez-moi, excusez-moi. Ils avaient tout fait. Et voilà, il est mort, c'est le troisième jour. Certes, il y a eu des femmes qui nous ont dit que le tombeau était vide, mais enfin, vous savez, les histoires des femmes, il faut toujours s'en méfier. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est attention. Je suis simplement en train de vous partager la conversation entre les deux disciples de Maïs. Jusqu'à ce que Jésus vienne et chemine avec eux. Ils ne réalisent pas que cet homme qui est à leur côté est le ressuscité du troisième jour. Ils connaissent toute l'Écriture, mais ils n'ont pas la révélation. Ils avaient entendu l'enseignement du Seigneur. Mais tout cela est rentré par là et sorti de l'autre côté. Voyez-vous? Et à la fin, ce qui est formidable, c'est que le Seigneur leur dit, mais enfin, homme lent à comprendre ce que les Écritures déclarent. N'est-il pas écrit dans les Écritures que le Christ mourait et qu'il ressuscitait au troisième jour? Il commence à leur expliquer les Écritures. Et quelque chose se passe en eux. Ce sont eux qui rendent ce témoignage. Quelque chose se passe en eux. Leurs yeux s'ouvrent. Ils réalisent que c'est le Christ, alléluia. Écoutez maintenant, quand Jésus disparaît, ils retournent. Ils arrêtent leur voyage vers Emmaüs. Ils rentrent à Jérusalem pour aller rejoindre les apôtres et leur apporter cette bonne nouvelle, comme quoi le Christ était ressuscité. Et pendant qu'ils allaient, ils se parlaient l'un à l'autre en disant, oh j'aime beaucoup ça, en disant ceci, mes amis, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait et nous expliquait les Écritures? Ils ont été confrontés à l'enseignement du Christ, à la parole de Dieu. Cette parole les embrasait. Ils sont repartis avec le feu dans leur cœur. Des cœurs embrasés, des cœurs enflammés, des cœurs, mes amis, en flammes. Et eux-mêmes témoignaient. Notre cœur ne brûlait-il pas à nous lorsqu'il nous expliquait? Littéralement, le grec dit ceci, lorsqu'il ouvrait les Écritures pour nous, quand on ouvre les Écritures, le feu jaillit. Mais dans la plupart d'assemblées, la Bible est devenue un simple livre de référence. On raconte des histoires. Alors les gens rigolent avec son accent je ne sais d'où. Et tout le monde, à des heures bien précises, quelqu'un me l'avait dit. Il dit, pasteur, j'aime suivre ce pasteur-là à la télé parce qu'il me fait rire. Oh là là, c'est terrible. Quand on doit en arriver à ça. Et malheureusement, ce genre de personnes qui sont des véritables clowns, voyez-vous, eh bien, drainent beaucoup de monde derrière eux. Voyez-vous, alors mes amis, réveillez-vous. Le feu n'est là que lorsqu'on ouvre les Écritures dans la puissance du Saint-Esprit. Le feu n'est là que lorsque Jésus est le centre de l'Église. Le feu n'est là que lorsque, mes amis, nous le cherchons dans la puissance du Saint-Esprit. Le feu commence à s'allumer dans nos cœurs lorsque nous passons par le baptême du Saint-Esprit. Et ce baptême est une réalité, alléluia. Comme nous n'avons pas le temps aujourd'hui, nous allons prier, mais je vous invite, le vendredi, nous allons continuer comme le vendredi dernier, à la recherche, mes amis, de l'expérience de la chambre haute. Venez, vous tous qui aimerez être baptisés dans le Saint-Esprit, car c'est une nécessité. Vous ne pouvez pas aller loin dans votre expérience avec Christ si vous ne passez pas par l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, du baptême du feu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous prie donc de vous lever. Nous allons nous tourner vers le Seigneur, celui qui baptise dans le Saint-Esprit. C'est lui qui baptise dans le feu. Ce baptême est une nécessité. Ce baptême est indispensable. Ce baptême, nous en avons besoin, car elle ouvre la porte au revêtement des puissances. Elle nous plonge dans le fleuve de feu du Seigneur. Et quand nous nous mettons à brûler de son feu, notre témoignage commence alors à illuminer, mes amis, nos voisins, à illuminer les gens de notre famille, de notre entourage. Nous nous mettons à briller de sa gloire. Et le bruit d'en haut va commencer à se faire entendre. Car c'est ce bruit-là qui attire les âmes à Christ. Vous levez votre main. Par la foi, vous dites, Seigneur, ce baptême est un don. Ce baptême est une promesse. Ce baptême, je veux l'expérimenter. Je te prie maintenant, Seigneur, de me plonger dans ton baptême du Saint-Esprit. Seigneur, je crie à toi. Demandez et vous recevrez. Alors, quand vous demandez à votre Père le Saint-Esprit, il ne va pas vous donner autre chose. Quand vous lui demandez le baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, sachez que c'est une demande qui est conforme à sa volonté. Alors, prions tous ensemble, alléluia.